Chapitre 18. Instructions diverses. Suite. La part des sacrificateurs et des Lévites. Les sacrificateurs, les Lévites et toute la tribu de Lévi n'auront point de part ni d'héritage avec Israël. Ils mangeront des sacrifices de l'Éternel faits par feu et de son héritage, mais ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel est leur héritage, comme il le leur a dit. Or, c'est ici le droit des sacrificateurs de la part du peuple, de la part de ceux qui offrent un sacrifice, que ce soit un bœuf ou un mouton. On donnera au sacrificateur l'épaule et les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton moût et de ton huile, et les prémices de la toison de tes moutons. Car l'Éternel, ton Dieu, l'a choisi, lui et ses fils, d'entre toutes les tribus, pour qu'ils se tiennent toujours devant lui pour faire le service au nom de l'Éternel. Et si le Lévite vient de l'une de tes portes, de tout Israël où il séjourne, et qu'il vienne, selon tout le désir de son âme, au lieu que l'Éternel aura choisi, et qu'il serve au nom de l'Éternel, son Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il mangera une portion égale, outre ce qu'il aura vendu de son patrimoine. Versets 1 à 8. Ici, comme partout ailleurs, dans le livre du Deutéronome, les sacrificateurs et les Lévites sont associés. C'est un trait caractéristique de notre livre, en contraste avec l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Nous croyons que cela vient de ce que, dans le Deutéronome, le but de Dieu est de mettre davantage en évidence l'assemblée d'Israël tout entière. C'est pour cela que nous y voyons rarement paraître les sacrificateurs dans leurs fonctions officielles. La grande pensée du Deutéronome, c'est la relation immédiate d'Israël avec l'Éternel. Dans le passage qui nous occupe, les sacrificateurs et les Lévites sont unis ensemble et présentés comme les serviteurs de l'Éternel, entièrement dépendants de lui et intimement identifiés avec son autel et son service. En parcourant l'histoire ultérieure du peuple d'Israël, nous pouvons remarquer que, quand les choses sont bien allées, l'autel de Dieu a été bien servi et les sacrificateurs et les Lévites n'ont manqué de rien. Si l'Éternel avait la part qui lui était due, ses serviteurs pouvaient être assurés d'avoir la leur. Mais s'il était négligé, ils l'étaient aussi. Ils étaient liés ensemble. Le peuple devait apporter ses offrandes à Dieu et lui les partager avec ses serviteurs. Les sacrificateurs et les Lévites ne devaient rien exiger du peuple, mais le peuple devait apporter ses dons à l'autel de Dieu, ce qui permettait à ses serviteurs de se nourrir des fruits du dévouement du peuple à Dieu. Telle était l'intention divine. Il est vrai que nous trouvons un état de choses entièrement différent dans les tristes jours des fils d'Élie. Et la coutume des sacrificateurs à l'égard du peuple était celle-ci. Quand quelqu'un sacrifiait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à trois dents, et il piquait dans la chaudière ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Le sacrificateur en prenait tout ce que la fourchette amenait en haut. Il faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on eût fait fumer la graisse, le serviteur du sacrificateur venait et disait à l'homme qui sacrifiait « Donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, et il ne prendra pas de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. » Si l'homme lui disait « On va d'abord faire fumer la graisse, puis tu prendras selon le désir de ton âme », alors il lui disait « Non, car tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. » Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. 1 Samuel 2, versets 13 à 17. Tout cela était déplorable et amena un terrible jugement de Dieu sur la maison d'Élie. Mais, dans l'état normal des choses, tel qu'il est décrit dans notre chapitre, l'Éternel s'entourait des offrandes volontaires de son peuple et il en nourrissait ses serviteurs. Ainsi, par exemple, dans les beaux jours du roi Ézéchias, nous lisons Et Ézéchias établit les classes des sacrificateurs et des Lévites selon leur classe, chacun selon son service, tant sacrificateur que lévite, pour les holocaustes et pour les sacrifices de prospérité, pour faire le service et pour rendre grâce et pour louer aux portes des parvis de l'Éternel. Et il établit que la portion du roi serait prise sur ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats et des nouvelles lunes et des fêtes solennelles, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils s'attachent à la loi de l'Éternel. Et quand la parole du roi se répandit, les fils d'Israël apportèrent en grande quantité les prémices du blé, du mou et de l'huile et du miel et de tous les produits des champs, et ils apportèrent la dîme de tout en abondance. Et les fils d'Israël et de Juda qui habitaient dans les villes de Juda, eux aussi apportèrent la dîme du gros bétail et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et ils les mirent par monceaux. Au troisième mois, ils commencèrent de faire des monceaux, et au septième mois ils achevèrent. Et Ézéchias et les chefs vinrent et virent les monceaux, et ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Et Ézéchias s'informa auprès des sacrificateurs et des lévites au sujet des monceaux. Et Azaria, le principal sacrificateur, qui était de la maison de Tsadok, lui parla et dit « Depuis qu'on a commencé d'apporter l'offrande dans la maison de l'Éternel, on a mangé et on a été rassasié, et il en est resté en abondance, car l'Éternel a béni son peuple, et ce qui reste, c'est cette grande quantité. » 2 Chroniques 31, versets 2 à 10. Que tout cela est beau et encourageant. Un vrai dévouement du peuple fournissait d'amples provisions pour les besoins des serviteurs de l'Éternel, et même il y avait des monceaux de reste. Nous pouvons être assurés que cela était agréable au cœur du Dieu d'Israël, comme au cœur de ceux qui, par son appel, étaient voués au service de son sanctuaire. Remarquons particulièrement les paroles suivantes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Voilà quelle était l'autorité d'Ézéchias, le fondement sûr et ferme de toute sa conduite. Il est vrai que l'unité visible de la nation avait pris fin, et que l'état des choses, lorsqu'il commença son œuvre, était des plus décourageants. Mais la parole de l'Éternel était aussi vraie au jour d'Ézéchias qu'au jour de David ou de Josué. Ézéchias sentait que Deutéronome 18, versets 1 à 8, gardait toute sa force et qu'il était responsable avec son peuple d'agir en conséquence selon leur pouvoir. Les sacrificateurs et les lévites ne devaient pas souffrir de la faim parce que l'unité nationale d'Israël avait cessé. Les circonstances pouvaient changer et l'Israélite se trouvait dans une position où il ne lui serait pas possible d'observer tous les détails des cérémonies lévitiques. Mais jamais il ne pouvait se trouver dans des circonstances où il ne puisse avoir le privilège d'exprimer largement le dévouement de son cœur à l'Éternel et à son service. Nous voyons aussi dans l'histoire d'Israël que lorsque l'état moral baissait, que les cœurs se refroidissaient, alors le service de l'Éternel était négligé. Vous voyez par exemple le chapitre 13 de Néhémie. Quand ce fidèle serviteur revint à Jérusalem, après une absence probablement courte, il vit avec un profond chagrin que bien des choses s'étaient gâtées et que, entre autres, les Lévites avaient été laissés sans nourriture. Et j'appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service avaient fui chacun à son champ. Verset 10. Il n'y avait pas de monceau, de prémices dans ces tristes jours. C'était un opprobre pour le peuple que les serviteurs de l'Éternel soient obligés d'abandonner son culte et son service pour ne pas mourir de faim. C'était un état de choses déplorable, et Néhémie le sentait profondément. Il écrit « Et je querellai les chefs et je dis « Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée ?» Et je les rassemblai et je les fis demeurer à leur poste, et tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé et du mou et de l'huile. Et j'établis sur les magasins Shelemia, le sacrificateur, et Tsadok, le scribe, car ils étaient estimés fidèles, et c'était à eux de faire les répartitions à leurs frères. Versets 11 à 13. Il fallait des hommes éprouvés et fidèles pour occuper cette haute charge et faire les distributions. Ils devaient veiller à ce que le trésor de l'Éternel soit fidèlement géré, selon sa parole, et à ce qu'il soit pourvu aux besoins de ses serviteurs sans partialité. Tel était l'ordre admirable prescrit par le Dieu d'Israël, ordre que tous les Israélites fidèles, tels que Néhémie et Ézéchias, prenaient plaisir à observer. Le large fleuve des bénédictions coulait de l'Éternel vers son peuple et retournait de son peuple à lui, et c'est à ce fleuve que ses serviteurs devaient puiser abondamment pour tous leurs besoins. L'entretien des serviteurs de Dieu. Quelle leçon pouvons-nous tirer de tout cela? Dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens, l'apôtre traite le sujet de la manière dont l'assemblée doit pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. La règle est aussi claire que possible. Qui va jamais à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? Ou la loi aussi ne dit-elle pas ces choses? Car dans la loi de Moïse il est écrit: tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'occupe-t-il des bœufs, ou parle-t-il entièrement pour nous? Car c'est pour nous que cela est écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos biens charnels? Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple? Que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ceci afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard. Car il serait bon pour moi de mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire. Mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est que, en évangélisant, je rends l'évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'évangile. Versets 7 à 18. Le sujet est envisagé ici sous tous ses points de vue. L'apôtre proclame de la manière la plus claire la règle divine à cet égard. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. De même qu'autrefois les sacrificateurs et les Lévites vivaient des offrandes présentées par le peuple, de même maintenant, ceux qui sont réellement appelés de Dieu à prêcher l'Évangile et qui se donnent entièrement à cette œuvre, ont droit moralement à être entretenus quant à leurs besoins temporels. Ce n'est pas qu'ils aient à attendre un paiement fixe de la part de ceux auxquels ils prêchent la parole. Il n'y a rien de pareil dans le Nouveau Testament. L'ouvrier doit s'attendre à son maître seul pour son entretien. Les sacrificateurs et les Lévites devaient s'attendre à l'Éternel seul. Si le peuple manquait à son devoir, Dieu pouvait le châtier par la sécheresse et la stérilité. Acte 1, versets 5 à 11. Et les Lévites devaient retourner à leur champ et travailler pour leur entretien. Leur seul recours devait être au Dieu d'Israël qui les avait consacrés à son service et leur avait donné ce service à accomplir. Il en est de même des serviteurs du Seigneur maintenant. Ce n'est qu'à lui seul qu'ils doivent s'attendre. Il faut qu'ils soient bien certains qu'ils ont été qualifiés et appelés par lui pour l'œuvre avant de s'y engager. Il faut qu'ils détournent complètement leurs yeux des hommes, de toutes les ressources venant des hommes, de tous les soutiens humains, et qu'ils s'appuient exclusivement sur le Dieu vivant. Nous sommes convaincus par l'expérience de 40 années que les cas sont fort rares où un chrétien peut abandonner la profession qui est son gagne-pain afin de prêcher l'Évangile. Il faut que l'appel de Dieu lui soit parfaitement clair. S'il en est ainsi, il pourra être certain que Dieu sera avec lui dans l'œuvre à laquelle il l'a appelé et qu'il suppléera à tous ses besoins, selon ses richesses en gloire, par le Christ Jésus. Quant aux hommes et à ce qu'ils peuvent penser de lui et de sa manière de faire, il n'a qu'à les renvoyer à son maître. Comme il ne leur demande pas de l'entretenir, il n'a aucun compte à leur rendre et n'est responsable qu'envers son maître. Mais dans le passage de 1 Corinthiens 9, que nous venons de citer, nous voyons que l'apôtre, après avoir pleinement établi les droits qu'il avait à être entretenu, y renonce entièrement. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses. Il travaillait de ses mains, travaillait nuit et jour, afin de n'être à charge de personne. Ses mains, dit-il en acte 20, ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Verset 34. Il n'avait convoité ni l'or, ni l'argent, ni la robe de personne. Apôtre, évangéliste, pasteur infatigable, il voyageait, il prêchait, il faisait des visites de maison en maison. Il prenait soin de toutes les assemblées. Il aurait eu le droit d'être entretenu, mais il ne faisait jamais valoir ses droits, et même y renonçait. Il subvenait à ses besoins et à ceux de ses compagnons par le travail de ses mains. Et ainsi il donnait l'exemple, comme il le dit aux anciens de l'assemblée d'Éphèse. « Je vous ai montré en toute chose qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir. » Verset 35. On est étonné de voir ce bien-aimé serviteur de Christ, avec tous ses grands voyages et ses immenses travaux comme évangéliste, pasteur et docteur, trouver encore le temps de travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins. Et cependant, il recevait avec gratitude l'aide de ceux qui savaient donner. Maintes fois, l'assemblée de Philippe pourvue aux besoins de son vénéré et bien-aimé Père en Christ, et cela ne sera jamais oublié. Il leur écrit « Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois et même deux fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléera à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire, par le Christ Jésus. Philippiens 4, versets 10 à 19. Quel privilège que celui de pouvoir rafraîchir le cœur d'un tel serviteur de Christ à la fin de sa carrière et dans la solitude de sa prison à Rome. Comme l'offrande des Philippiens venait à propos, et quelle dut être leur joie en recevant le témoignage de reconnaissance de l'apôtre. Leur offrande était montée comme un parfum de bonne odeur jusqu'au trône et au cœur de Dieu. L'apôtre ne pouvait rien recevoir de l'assemblée de Corinthe. Leur état ne le permettait pas. Cependant, quelques croyants de cette assemblée vinrent à son aide. Or, je me réjouis de la venue de Stéphanas et de Fortuna et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à ce qui a manqué de votre part, car ils ont récréé mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de tels hommes. 1 Corinthiens 16, versets 17 et 18. Nous voyons donc clairement que, soit sous la loi, soit actuellement, c'est selon la volonté de Dieu que ceux qui sont réellement appelés par lui à l'œuvre et qui s'y dévouent entièrement et fidèlement est le soutien spirituel et matériel des croyants. Tous ceux qui aiment Christ considéreront comme un privilège de pouvoir lui faire part de leurs biens dans la personne de ses serviteurs. Lorsqu'il était sur cette terre, il daignait accepter les secours de la part de ceux qu'il aimait et qui avaient profité de son précieux ministère. Des femmes aussi qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, et Jeanne, femme de Chuzas, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Luc 8, versets 2 et 3. Femmes heureuses et privilégiées, quelle joie de pouvoir assister le Seigneur de gloire dans les jours de son humiliation et de ses besoins terrestres. Il est nécessaire que tous ceux qui servent le Seigneur restent entièrement libres de toute influence humaine, qu'ils ne s'attendent pas à l'homme, de quelque manière que ce soit. C'est avec Dieu qu'ils doivent avoir affaire dans le secret de leurs âmes. Ils ne doivent s'attendre qu'à lui pour subvenir à leurs besoins. S'ils peuvent y pourvoir par le travail de leurs mains, sans nuire à leur service pour Christ, tant mieux. Évidemment, c'est ce qui vaut le mieux. Nous en sommes pleinement persuadés. Mise en garde contre l'occultisme. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. Versets 9 à 14. Combien de personnes, même parfois qui se disent chrétiennes, consultent les voyants, les médiums ou les horoscopes? Nous croyons fermement que toutes ces choses sont du diable. Lorsqu'on se prête, d'une manière ou d'une autre, à la terrible évocation des esprits, on se place entre les mains de Satan pour être entraîné et trompé par ses mensonges. Ceux qui ont entre les mains la révélation parfaite de Dieu n'ont aucun besoin de voyance, de tarot ou d'horoscope. Et si, non satisfaits de cette précieuse parole, ils se tournent vers les esprits des morts, ils ne peuvent rien attendre, sinon que Dieu les abandonne à être aveuglés et égarés par de mauvais esprits qui paraissent être les défunts et qui prononcent toute espèce de mensonge. Nous nous sentons pressés de mettre le lecteur en garde contre le grand danger qu'il y a à consulter les esprits de ceux qui ne sont plus. L'homme riche s'imaginait que si Lazare retournait sur la terre et parlait lui-même à ses cinq frères, cela produirait un grand effet sur eux. « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus, si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Luc 16, versets 27 à 31. Si les hommes n'écoutent pas la parole de Dieu, s'ils ne veulent pas croire ce qu'elle leur dit d'une manière si claire et si solennelle, sur eux-mêmes, sur leur état actuel et sur leur destinée future, ils ne seraient pas persuadés non plus lors même que des milliers d'esprits reviendraient leur dire ce qu'ils ont vu, entendu ou éprouvé dans le monde invisible. Cela ne produirait sur eux aucun effet permanent ou salutaire. La venue d'un autre prophète. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez selon tout ce que tu demandas à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de la congrégation, disant « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. » Et l'Éternel me dit « Ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. » Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il dira en mon nom, moi je le lui redemanderai. Seulement, le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite ?» Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite présomptueusement, « Tu n'auras pas peur de lui. » Versets 15 à 22. Comment ne pas reconnaître dans ce prophète notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Au chapitre 3 des Actes, Pierre lui applique les paroles de Moïse « Et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. » Moïse déjà a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Versets 20 à 23. Quel précieux privilège que celui d'écouter la voix d'un tel prophète. C'est la voix de Dieu lui-même parlant par la bouche de l'homme Christ Jésus, non du milieu des tonnerres, des éclairs et du feu consumant, mais avec le doux son de l'amour et de la grâce. Nous trouvons cette voix dans l'Écriture sainte. Nous n'avons nul besoin d'autre chose. Si quelqu'un avait la prétention de venir avec une nouvelle révélation ou quelque vérité nouvelle qui ne se trouve pas dans le volume divin, nous devrions le juger, lui et son enseignement, à la lumière de l'Écriture et les rejeter entièrement. Tu n'auras pas peur de lui. Les faux prophètes se présentent d'habitude avec des paroles qui ont belle apparence. Ils tâchent de s'entourer d'une auréole de dignité et d'importance qui souvent en impose aux ignorants. Mais ils ne peuvent résister à la puissance scrutatrice de la parole de Dieu. Un simple passage de l'Écriture coupera à sa racine leur soi-disant révélation. Ceux qui connaissent la voix du vrai prophète n'en écouteront aucune autre. Ceux qui ont entendu la voix du bon berger n'écouteront pas la voix d'un étranger.